Apport de la thérapie miroir en rééducation chez l'hémiplégique. Article de Kinésithérapie La Revue d'octobre 2011. Un article signé Vincent Sionneau, Camille Bernaudeau, Mine Thaï Nguyen, Anthony Lassener, étudiant en deuxième année, IFMK Saint-Michel, Paris. La thérapie miroir ne se substitue pas à une rééducation classique, mais semble apporter de réels bénéfices à la récupération motrice, notamment après un accident vasculaire cérébral, permettant de rendre une motricité plus fonctionnelle aux membres atteints. Résumé, la rééducation de l'hémiplégie avec miroir permet une illusion de mouvement du membre parétique agissant sur la plasticité cérébrale. La littérature montre l'aspect bénéfique pour la récupération motrice et l'absence d'effet sur la spasticité, mais est partagée sur la sensibilité. Son efficacité met en jeu un travail bilatéral, son rapport aux fonctions motrices existantes et s'adresse aux patients sans troubles cognitifs. Son application s'ouvre à d'autres pathologies neurologiques. Mots-clés. Bilatéral, hémiplégie, illusion, miroir, rééducation, simulation. Introduction. La rééducation du patient hémiplégique s'est longtemps organisée autour de deux grands concepts, Bobat et Perfetti. Aujourd'hui, de nombreux moyens tels que le travail par tâche orientée, par contrainte induite, avec utilisation de feedback sont utilisés permettant de concilier l'exécution de tâches intensives, répétitives et bilatérales pour enrichir cette rééducation. Ramachandran, en 1995, a obtenu la diminution et même la disparition des douleurs des membres fantômes par la stimulation mentale en créant l'illusion de l'existence de membres amputés à l'aide de miroirs. C'est l'action de cette illusion sur l'air cortex pariétal postérieur, PPC, lorsque le cerveau reçoit des informations contradictoires, ici proprioceptives et visuelles, il les met en balance pour sélectionner les plus fiables. Ainsi, les informations visuelles prédominent sur les informations proprioceptives et le patient a l'illusion d'un mouvement du côté parétique. Les mécanismes neuronaux expliquant l'intérêt de cet usage du miroir ont fait l'objet d'un certain nombre d'études. Gary et collaborateurs ont montré que le fait de regarder le reflet d'une main en mouvement dans un miroir facilitait l'excitabilité des neurones de l'aire motrice primaire de la main contralatérale. La réalisation de mouvements avec l'imposition d'un feedback visuel saurait ainsi stimuler les phénomènes de plasticité cérébrale en simulant un mouvement correct et connu du membre lésé dans le but d'activer des aires corticales, les voies sensitives et motrices suppléantes. Hertelt et collaborateurs ont montré par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle que la simulation mentale d'un mouvement observé permet d'accroître de manière significative un réseau d'aires cérébrales comprenant les aires prémotrices et pariétales inférieures ainsi que le gyrus supérieur du lobe temporal supposé contenir le système neurone-miroir. L'aire motrice secondaire en bilatéral et le gyrus supramarginal contralatéral de manière plus importante. L'existence de ces neurones miroirs a été mise en évidence pour la première fois par Risolati et collaborateurs en 1996. Ils sont les neurones de l'imitation activés lors de l'exécution d'une action dont le but est connu, l'observation de cette même action ou son imagination. L'utilisation de la thérapie miroir ne se limite pas aux patients hémiplégiques. Elle a également été utilisée dans la prise en charge des syndromes douloureux régionaux complexes de type 1 et 2 et dans le cadre de douleurs du membre fantôme, mais aussi en neurologie périphérique. Dans ce contexte, l'objectif de cet article est de présenter à travers une synthèse bibliographique l'état des connaissances sur l'application de la thérapie miroir dans la rééducation de l'hémiplégie. Méthode. Les mots-clés « mirror », thérapie, rehabilitation, simulation, bilatéral, puis le mot stroke dans les bases de données P
PubMed, Pedro, Cochrane ont permis une sélection rigoureuse d'articles sur le sujet. 27 articles ont été retenus, 15 sur l'application du feedback visuel par miroir et 8 sur l'application de l'hémiplégie. Sur ces 8 articles, 4 sont randomisés et 4 sont des études de cas. Protocole et résultats d'articles. L'objectif de l'utilisation de miroirs est de refléter le membre sain comme s'il était le membre pariétique.
Pour chacune des études retenues, il a été demandé au patient d'effectuer un mouvement de manière bilatérale en observant le reflet du membre sain. Celui-ci consiste en la réalisation d'un mouvement identique de manière symétrique engageant deux membres opposés. Cela permet alors d'associer à l'information visuelle une sollicitation des structures sensorimotrices. Le principe était le même pour la rééducation du membre inférieur, le miroir étant alors placé entre les deux membres inférieurs. Dans la plupart des protocoles, les séances duraient environ 30 minutes à raison de 5 fois par semaine. Sur les 8 articles retenus pour l'application du feedback visuel par miroir dans la rééducation de l'hémiplégie, 5 l'accumulent directement à des séances de rééducation classique qui consistent en des actes de physiothérapie, d'étirement et de techniques de facilitation neuromusculaire. Les détails de celles-ci ne sont toutefois pas explicités par les auteurs. 3 études se démarquent par l'application de la thérapie miroir dans un protocole progressif. Les études de Stevens et collaborateurs, Satian et collaborateurs et Stoikov et collaborateurs sont les études de cas proposant une évolutivité des exercices dans le temps. Elles se scindent en plusieurs phases, elles sont appliquées aux membres supérieurs sur des patients en phase chronique post-accident vasculaire cérébral. Stevens a découpé son protocole en 2 phases. La première, sans miroir, consistait à reproduire des positions du poignet apparaissant sur un écran d'ordinateur avec le membre pathologique. La deuxième, avec miroir, se subdivisait en 3 temps. Durant la première semaine, les patients effectuaient des mouvements bilatéraux en observant le reflet de leur membre sain. Durant les 2 semaines suivantes, les patients devaient manipuler des objets simples devant le miroir. Et la 4e semaine reposait sur la manipulation complexe d'objets. Satian et collaborateurs ont proposé 3 phases réparties sur 3 mois. D'abord un travail bilatéral et symétrique avec miroir, puis une 2e phase sans le miroir consistant à se concentrer sur les informations somatosensorielles ressenties lors de mouvements les yeux clos. Enfin, la 3e phase reposait sur l'utilisation de la contrainte induite du membre dans les activités de la vie quotidienne. Stoikov et collaborateurs ont également suggéré 3 phases dans leur post-protocole avec l'utilisation systématique du miroir. La première semaine avec un travail bilatéral du poignet et des doigts, la 2e semaine avec un travail de prise d'objets en bilatéral, la 3e semaine avec l'utilisation de stylos pour des travaux de dessin. On observe, pour les protocoles de ces 3 études, une progression systématique dans la complexité de la commande à effectuer, se rapprochant de l'utilisation fonctionnelle du membre supérieur. En regard des résultats obtenus, dont un résumé est présenté dans le tableau 1, ces études s'accordent sur le fait que l'adjonction de séances de thérapie miroir à des rééducations dites classiques a permis d'améliorer les résultats aux tests moteurs. Les résultats sur la sensibilité sont plus partagés en utilisant un item du Fugelmeier test. Dole a objectivé une amélioration systématique de la sensibilité superficielle pour le groupe miroir. Dans l'étude de cas de Satian, le patient décrit une amélioration de sa sensibilité barésthésique ressentie lors des gestes de préhension, mais aucune évaluation objective n'a été effectuée. De plus, dans toutes les études où la spasticité a été évaluée, il n'a pas été retrouvé de différence dans son évolution entre les groupes témoins et ceux ayant suivi une thérapie miroir. Certains auteurs estiment que l'augmentation des performances est en étroite corrélation avec le temps d'application de la thérapie. Discussion. La thérapie miroir peut être pratiquée en séance de rééducation supervisée par un kinésithérapeute, en séance d'ergothérapie et en auto-rééducation au domicile du patient. Elle constitue une technique peu coûteuse et simple à mettre en place. Il s'agit d'une manière ludique de travailler la répétition de gestes bénéfiques pour la récupération des fonctions motrices. Elle permet également de réaliser des séances de rééducation plus intenses et plus longues, ce qui favorise aussi la récupération motrice. Lors des séances de thérapie miroir, on peut aider l'exécution de mouvements bilatéraux grâce à d'autres techniques. Le kinésithérapeute peut effectuer en même temps une mobilisation passive ou bien le membre paresthésique peut être stimulé par électrostimulation. La majorité des études présentées ont été faites avec des patients en phase chronique à plus de 5,5 mois post-AVC. Au contraire, dans l'étude de Doll, où tous les patients étaient à 8 semaines post-AVC au maximum, il a trouvé des résultats encourageant la pratique précoce de la thérapie miroir. Néanmoins, dans son étude de cas, Stevens a constaté que les effets sur un patient en phase chronique d'AVC, 6 ans après AVC, étaient plus stables et positifs que pour un patient ayant eu un accident vasculaire plus récemment, 14 mois après AVC. Les effets positifs du feedback par miroir peuvent être mis en lien avec celui du travail bilatéral. En effet, Netz et collaborateurs ont montré que la voie cortico-spinale directe, qui représente environ 20% de la voie motrice principale, était appliquée dans la récupération de la motricité et les recherches de Moody et collaborateurs suggèrent que celle-ci est recrutée par l'entraînement bilatéral. Stinir et collaborateurs, en 2007, ont étudié le potentiel fonctionnel de patients hémiplégiques en fonction de l'intégrité des voies corticospinales évaluées grâce à des techniques d'imagerie. Selon l'état de ces voies, ils ont proposé d'orienter le patient vers des rééducations qui solliciteront préférentiellement l'hémisphère lésé ou le sein, un travail unilatéral ou bilatéral. Stoïkov et collaborateurs, en se basant sur les travaux de Stinir, ont proposé une adaptation de cette étude en utilisant des tests moteurs, Fugelmeyer, et d'aptitude mobilité de doigts, réalisable dans la pratique courante. Pour les patients ayant un score inférieur à 35 au test Fugelmeyer of Upper Extremity, ils ont préconisé l'application d'un travail bilatéral qui favorise l'activité de l'aire motrice primaire contralatérale à la lésion. Les limites. Au sein de ces articles, l'apport de la rééducation miroir est mis en relation à celui d'une rééducation dite classique. Or, cette dernière n'est pas suffisamment détaillée pour permettre une comparaison objective des différents protocoles. Parmi les articles retenus, 4 études sont randomisées, les autres sont des études de cas, ce qui limite la portée de leur interprétation. Seuls 2 articles étudient les effets sur la sensibilité et ne permettent donc pas d'en tirer des conclusions. Conclusion. Certains paramètres semblent limiter les critères d'inclusion de la thérapie miroir. Cette thérapie nécessite l'adhésion du patient. Aussi, celui-ci ne doit pas avoir de troubles importants de la vision ni de troubles cognitifs sévères. Yavuzel et collaborateurs ont exclu de leur étude tous les patients ayant un score inférieur à 25 au Mini Mental State Examination. Les études concluent sur le fait que l'application d'exercices de stimulation avec miroir ne peuvent prétendre à eux seuls d'être suffisants dans une rééducation. Et même si la procédure optimale reste à déterminer, elle souligne que son adjonction dans une rééducation des AVC, en parallèle des moyens techniques classiques, physiothérapie, étirement, facilitation neuromusculaire, etc., amène à des résultats positifs sur la récupération motrice. Ainsi, en phase chronique d'accident vasculaire cérébral avec un potentiel de récupération minime, il est d'intérêt d'ajouter une nouveauté dans la rééducation. Le miroir est alors utilisé comme moyen de rétroaction visuelle afin de compenser les altérances proprioceptives par des influx visuels, puis comme moyen de stimulation de la plasticité cérébrale par la thérapie par le miroir, méthode d'imagerie motrice encore expérimentale, afin de rendre une motricité plus fonctionnelle aux membres atteints.
Point à retenir, la thérapie miroir ne se substitue pas à l'exercice d'une rééducation classique, mais l'intègre avec des résultats positifs sur le plan moteur. Son efficacité réside dans la simulation mentale du mouvement corrélé au travail bilatéral. L'attention et la coopération du patient sont nécessaires au bon déroulement de la rééducation. Cette application ne semble pas correspondre aux patients ayant un Fugle meilleur test inférieur à 35.